La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Semaine de l'Art, une émission qui n'a pas eu lieu depuis plusieurs semaines également. Nous étions un peu par mon et par vos, mais nous revenons en force avec Nicolas Chaudin. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Donc Nicolas Chaudin, vous êtes, on va parler beaucoup de votre livre Le Brasier, auquel j'ai consacré déjà un article sur la Tribune de l'Art, mais auparavant on va peut-être revenir sur votre parcours, puisque vous avez un parcours très riche d'éditeur, d'écrivain et également de défenseur du patrimoine, ce qui n'est pas pour déplaire à la Tribune de l'Art.
Sans doute.
Donc, entre deux mots, vous avez commencé comme éditeur chez Somogy, puis vous êtes passé chez Beaux-Arts Magazine, où vous avez été directeur de la rédaction, et chez Beaux-Arts, vous avez créé un journal qui m'a un petit peu inspiré, je dois dire, dans la création de la Tribune de l'Art, qui était l'année du patrimoine. C'est paru deux ou trois ou quatre fois.
Oui, c'était une livraison annuelle, alors évidemment, ça ne pouvait pas se précipiter.
Nous en dirons un mot, et ensuite on parlera de vos ouvrages. Vous avez publié plusieurs ouvrages consacrés au patrimoine et à l'histoire, mais toujours en lien souvent avec Paris et avec le patrimoine de Paris. Je pense, avec le patrimoine, le paysage, les Plouques et moi,
vous nous en avez un pamphlet,
en 2001. Haussmann, qui a été publié, qui fait maintenant référence sur Haussmann, pourtant c'est un préfet qui a beaucoup marqué Paris et qui a beaucoup marqué la littérature. Beaucoup de personnes ont écrit sur Haussmann, mais vous avez écrit un livre qui maintenant fait référence, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont tous les critiques qui l'ont lu. On pourra en dire un mot peut-être également.
D'accord.
Il y a 3 ans, vous avez commis, entre guillemets, un récit historique absolument passionnant qui s'appelait « L'été en enfer », Napoléon III dans la débâcle. Et vous venez donc pour nous parler aussi maintenant du Brasier, qui est également un récit historique. Donc Nicolas, vous êtes... parlez-nous donc de l'année du patrimoine donc, que vous aviez créé il y a quelques années.
En fait, à l'époque, je dirigeais les hors-séries de Beaux-Arts Magazine et l'idée était née de créer une revue annuelle qui aurait fait une espèce de bilan de l'année écoulée en matière de protection du patrimoine et de chantier de restauration, etc., etc. Et à l'époque, on s'appuyait sur une collaboration avec la Caisse des Monuments Historiques qui n'a jamais renouvelé son soutien. Et cette revue avait une vocation polémique, c'est un peu exagéré. Néanmoins, elle a fait parfois... comment dirais-je, elle a fait sensation, notamment quand on a été pris à la destruction de Paris. Il y avait eu un article qui s'appelait « La destruction de Paris » qui avait fait beaucoup de bruit, où on s'en prenait notamment aux architectes en chef des monuments historiques et à l'inconséquence de la municipalité. Mais en fait, cette revue n'a paru que 4 fois et on peut pas dire qu'elle ait beaucoup marqué les esprits à l'époque. Elle était une expérience, on va dire, mais une expérience qui s'est révélée infructueuse parce que on proposait ce magazine à l'occasion des Journées du Patrimoine. Et à l'époque, les Journées du Patrimoine se caractérisaient par la gratuité de tous les monuments ouverts au public. Et parce que c'était gratuit, les visiteurs n'avaient pas l'intention de dépenser le moindre sou pour une publication annexe. Donc au bout de 4 ans, on a abandonné le projet. Mais enfin, ça avait été passionnant, puis surtout ça m'avait permis de me familiariser avec tout le milieu des architectes en chef des monuments historiques, puisqu'ils m'avaient collé un procès, les ABF, etc.
Vous avez eu un procès pour...
Oui, mais en fait, ça s'est très bien... Enfin, un procès, une plainte. Mais en tous les cas, ça s'était très bien arrangé, parce que j'étais tombé sur un garçon extrêmement intelligent qui, à l'époque, dirigeait la compagnie des architectes en chef, qui était Pierre-Antoine Gattier.
Qui est toujours à
CMH et qui est un type extrêmement intelligent, très subtil. Et à la suite de ce différend, qui a failli vraiment nous mettre l'un sur l'autre, on est devenus très amis.
Et alors, par rapport à ce que vous constatiez, donc il y a 96, ça fait maintenant 20 ans.
Oui.
À peu près 20 ans, vous avez publié ça. Est-ce que le patrimoine, pour vous, a évolué dans le bon sens, la protection du patrimoine, ou dans le mauvais sens?
Bon, d'abord, l'engouement pour le patrimoine qu'on a connu à la fin des années Mitterrand, évidemment, c'est un peu étiolé. Il s'est étiolé, je pense, par un phénomène d'usure, parce que, comme vous l'avez compris, les sociétés fonctionnent par palier de mode. Hein. Le jardin lui-même, qui était une passion française il y a 5 ou 6 ans, va progressivement s'étioler. On va le voir très prochainement, c'est quasiment écrit. Et le patrimoine, lui aussi, s'est un petit peu affaibli comme ça dans la conscience des Français. Je pense aussi qu'il tient une moindre place du fait de la disette budgétaire, parce que la défense du patrimoine, de toute manière, coûte cher. Alors, elle ne coûte pas forcément aussi cher qu'on veut bien le dire, mais elle coûte cher. Et un État qui est au bord de la banqueroute ne peut certainement pas assurer la mission qui est la sienne de conserver aux générations futures le patrimoine dont il a hérité. C'est aussi, ce sont aussi les subventions aux propriétaires privés qui se sont affaiblies et qui plus est, une crise économique durable repousse sans cesse les travaux d'intervention des particuliers, parce que quand vous avez une maison du XVIIe siècle très lourde sur les bras, bah, vous remettez à plus tard la réfection de tel ou tel jeu de boiserie ou de tel ou tel parquet, ou de, voilà, parce que l'argent n'est pas là. Donc tout ça, on le sait très bien, hein, un bâtiment qui ne vit pas ou un bâtiment qu'on n'entretient pas régulièrement est un bâtiment qui, de toute manière, s'abîme.
Qui finira par coûter plus cher ensuite.
Certes, mais vous ne pouvez pas obliger les gens à débourser de l'argent qu'ils ne l'ont pas. Voilà. Et l'État, qui subvenait à ce genre de, enfin, en tout cas, qui soulageait ce genre de situation, est aujourd'hui incapable de le faire. Donc, c'est sûr, il y a un problème.
Dans Le paysage, les ploucs et moi, donc, qui était un pamphlet, vous vous attaquez au patrimoine, plus largement au patrimoine rural, du moins au paysage, donc à la prolifération des lotissements. dites-nous un mot de ce livre qui était assez violent finalement, parce que depuis
oui.
Mois, c'était assez violent comme titre.
C'était un petit livre, c'était un pamphlet en plus, donc l'exercice voulait d'abord qu'on y déploie pas mal de violence et d'autre part un peu de mauvaise foi. J'ai pas grand chose à dire de ce livre, sauf qu'il m'a valu des déconvenues locales, parce que évidemment, je m'en prends beaucoup aux élus locaux. Et donc, juste à titre d'exemple, il faut savoir que les poubelles n'ont pas été ramassées devant ma maison pendant 6 mois à la campagne. Ouais, c'était extraordinaire ça. J'avais adoré le genre de représailles assez mesquines, mais enfin, peu importe. Le livre, lui, m'importait dans la mesure où, parce que je vous disais que la perception du patrimoine a changé, mais nous changeons aussi. Et plutôt que d'être un défenseur de tel ou tel morceau d'architecture, etc., il m'est apparu soudain beaucoup plus important de s'attacher aux ensembles, d'une part, alors les ensembles urbains, certes, mais aussi aux ensembles paysagers, aux sites. Et rien n'est plus beau que la perception d'un clocher dans un paysage, ou de la tour d'un château, ou d'un pont. Un pont modeste enjambant une rivière avec un dos d'âne un peu saugrenu aujourd'hui. Eh bien, c'est ce patrimoine-là qui est menacé, notamment, par la dégradation des paysages. Alors, évidemment, aujourd'hui, dès que vous parlez de dégradation des paysages, vous avez des bonnes âmes qui vous disent « Mais non, le paysage ne se dégrade pas, il évolue, comme il a toujours évolué. » Sauf que, il y a des pratiques qui sont plus ou moins respectueuses du socle, des pratiques qui sont plus ou moins respectueuses de l'harmonie, et que ces pratiques sont parfaitement abandonnées aujourd'hui. D'autant plus que les territoires échoient à une catégorie d'élus locaux souvent parfaitement illettrés. Je pense qu'un jour, il faudra quand même poser le problème en ces termes. On ne peut pas confier les rênes d'un pays à une bande d'énergumènes qui n'a jamais ouvert un livre et qui n'a jamais contemplé. Et la contemplation est la clé de bien des solutions, surtout en matière d'aménagement du territoire. Donc, effectivement, ce livre s'en prenait à cette espèce d'incurie croissante et qui, aujourd'hui, règne sans partage. Quoi. Il n'y a personne pour parler de pollution visuelle. On parle de pollution atmosphérique, on parle du bruit, on parle de recyclage d'ordures, on parle de mille et mille choses au nom de l'écologie, mais jamais on ne parle de pollution visuelle. Et c'est quand même très paradoxal dans un pays dont la principale ressource, en tous les cas, est ou sera, dans un avenir très proche, le tourisme. Si on fait venir des millions d'étrangers en France, il faudra bien avoir quelque chose à leur montrer, quelque chose d'autre que des jupons crasseux et des cuisses verruqueuses. Il faudra bien leur montrer pourquoi ils sont venus, leur donner raison dans leur choix. Et pour ça, il faut apprendre à respecter par des pratiques plus douces, des pratiques plus pondérées, un paysage qui n'est pas que le fruit de la nature. On est bien d'accord, le paysage, c'est le fruit du travail de l'homme sur le socle, mais il y a certainement des sites à préserver, des perceptions visuelles à préserver. Et tout ça, l'homme l'a complètement oublié, et ceux qui nous dirigent, surtout, s'en moquent ostensiblement.
Alors ensuite, vous avez donc écrit Haussmann. Haussmann était, on l'a toujours, beaucoup de gens le considèrent comme un destructeur de Paris. Vous, vous avez replacé Haussmann, finalement, dans... vous l'avez remis à sa place, quelque part, puisque vous expliquez qu'il n'est pas du tout, le... c'est pas lui le démiurge. Dites-nous en gros la thèse, rappelez-nous la thèse de votre livre.
Non, mais l'idée, c'était de dire que d'abord, Haussmann n'était que le produit de son temps, hein, qu'il n'arrive pas comme ça, il ne déboule pas dans l'histoire à bord d'un char sans guide pour tout renverser. Son action est le produit d'une réflexion entamée déjà depuis une trentaine d'années, enfin, en tout cas une vingtaine d'années sérieusement. Et puis, il arrive pour résoudre des problèmes cruciaux auxquels sont confrontés, auxquels est confrontée la grande ville. Ces problèmes, d'abord, sont des problèmes d'ordre sanitaire. Et ce qui m'avait frappé, c'était, on résumait Haussmann à une destruction acharnée du vieux Paris et à la mise au point d'un dispositif répressif. Les grandes avenues n'étant là que pour
on
tirer au canon.
Avec le brasier,
voilà. Mais tout ça, alors tout ça me paraissait d'un simplisme consternant, et donc il fallait juste redire que un, Haussmann n'était pas arrivé comme une pluie d'orage, que deuxièmement, il avait eu des échéances, en tout cas il avait eu à affronter des problèmes autrement plus cruciaux que la répression policière et la destruction jubilatoire des vieilles masures. Il y avait des problèmes d'ordre sanitaire, des problèmes d'ordre économique, des problèmes d'ordre, il y avait de multiples qui se posaient à lui, et de toute manière, il fallait réformer cette ville. Bon, Paris s'est réformée sur elle-même, c'est peut-être la seule fois que ça lui est arrivé dans son histoire à ce point, effectivement, on peut déplorer la destruction de plein de choses, bien sûr, mais on pourrait déplorer les destructions de tout ce qu'on a détruit depuis la nuit des temps. Il était assez intelligent de reconstruire la ville sur la ville, il était intelligent, il était chanceux même que cette reconstruction ait lieu au milieu du 19e siècle et pas au début du 20e, par exemple, ou en tout cas au milieu du 20e, parce que peu ou prou on construit au milieu du 19e comme on construit à la fin du 18e ou au milieu du 18e. Haussmann est encore un homme pétri de culture classique. Son idéal de ville, grosso modo, c'est la ville de Bordeaux au 18e siècle. Donc il a encore une perception assez classique de l'espace urbain, et on ne peut pas nier un certain nombre de réussites.
Et enfin, on n'en parlera pas beaucoup ici, mais c'est presque le premier volet, mais ça ressemble beaucoup, c'est la même collection d'ailleurs, hein, que vous avez publié L'été en enfer, Napoléon III dans la débâcle, où vous faites là un récit historique, ce qu'est d'ailleurs votre livre Le Brasier, c'est-à-dire que vous faites œuvre d'historien, parce que vous allez dans les archives, vous faites de la recherche, vous faites pour Napoléon III, vous avez il y a des choses qu'on n'a pas dit avant.
Oui. Le problème, en fait, c'est les éditeurs qui le posent. C'est-à-dire que les éditeurs sont toujours très embarrassés quand il s'agit de placer un livre inclassable, incasable, dans une catégorie. Et moi, je ne veux absolument pas être assimilé à un auteur de romans historiques. D'abord parce que le genre ne me plaît pas, je n'en lis pas. D'autre part parce que c'est un genre qui littérairement est très faible. Et moi je pense qu'une bonne biographie peut être une œuvre littéraire beaucoup plus valable qu'un roman historique, alors tentant peut-être, excitant, hein, mais rarement bien écrit. Donc moi c'est un genre que je néglige. Oh, j'ai peut-être tort, hein. Mais en tous les cas, voilà. Donc c'est pour ça que c'est moi qui ai demandé à Actes Sud à chaque fois de mettre récit historique à leur grande âme, parce qu'on ne sait pas trop où placer ce bouquin. Mais ce sont des livres d'histoire. Comme L'été en enfer, Haussmann, plus que les autres du reste, était un véritable livre d'histoire, dans la mesure où il est le fruit d'une enquête scientifique, patiente, lente, très longue, que j'ai menée à chaque fois, grâce au concours d'ailleurs d'universitaires. Voilà. Mon ambition, c'est de faire l'histoire, d'écrire l'histoire, mais de l'écrire, ce qu'ont oublié les universitaires. L'histoire, c'est quelque chose qui ne vit que si on la transmet. Or, pour transmettre, il faut s'exprimer de manière intelligible et de préférence avec une certaine élégance. Si vous écrivez élégamment ou si vous écrivez puissamment, en tous les cas, on sera d'autant plus enclin à vous suivre dans vos aventures que si vous écrivez comme, je ne sais pas, moi, un prompteur. Et le problème des études universitaires, et c'est encore plus vrai en histoire de l'art, c'est qu'on a tendance à négliger la forme au profit du seul produit scientifique de la recherche. L'histoire, et dans une moindre mesure l'histoire de l'art, ne peut pas se passer d'un grand respect de la forme et d'une recherche formelle permanente. Ce que vous dites, on l'acceptera si on le comprend. Donc, moi, j'avais pour ambition, et j'ai toujours pour ambition, de raconter l'histoire. Pas comme un griot qui chanterait sur la place du village, quoique, mais vraiment de la raconter, et c'est pourquoi je construis ces ouvrages historiques avec la même rigueur que celle d'un roman ou d'un récit. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de scénarisation du propos. Mais le propos, lui, il est strictement historique.
Alors, on viendra encore une fois longuement sur le brasier. Mais avant cela, vous avez parlé des éditeurs. Et j'ai quand même omis dans votre présentation le fait que vous êtes éditeur. Que vous avez créé deux maisons d'édition, Phileas Fogg, puis les éditions de Nicolas Chaudin. Qu'actuellement, vous êtes gérant d'une maison d'édition.
Oui.
Et donc, alors peut-être un petit mot sur la maison d'édition qui porte votre nom, qui n'existe plus, je crois, parce que vous l'avez revendue. Et...
Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait ce que tous les éditeurs rêvent de faire, c'est-à-dire j'ai revendu ma maison. Parce qu'un éditeur d'art, surtout aujourd'hui, vit assez difficilement, tous mes confrères vous le diront.
On en parlera, c'est intéressant. Ouais. En même temps que vous nous raconterez cette histoire, dites-nous comment vous avez vécu le fait de faire des éditions d'art. Vous avez travaillé avec les musées, vous avez travaillé, vous avez fait des livres que vous avez choisis vous-même. Vous avez même édité un ouvrage sur les musées, le Spin d'Amour, qui ne vous a pas rapporté du tout, je crois. Ça, c'est vendu assez peu. Que j'avais
pourtant, son auteur est une star universelle.
Donc, dites-nous à la fois ce qu'est devenu cette maison et l'édition d'art. Comment vous voyez l'édition d'art en France aujourd'hui, très brièvement, puisqu'après, on parlera du Brasier.
Très brièvement, c'est assez difficile parce que c'est un problème d'abord qui concerne beaucoup d'opérateurs, beaucoup d'acteurs. Mais
un petit peu le temps quand même.
Enfin, voilà, l'édition d'art s'est transformée en une quête de subsides aujourd'hui. Un éditeur d'art passe énormément de temps à concevoir des conventions de coédition avec des institutions ou avec des intervenants privés, mais c'est plus rare, des opérateurs privés, c'est plus rare. Et donc, nous perdons énormément de temps à essayer de construire le budget de réalisation de l'ouvrage avant de choisir tel ou tel sujet d'investigation. Donc, ça marchait très bien tant que les institutions et que les opérateurs privés avaient de l'argent à mettre dans les livres. C'est plus le cas aujourd'hui, d'abord parce que les institutions sont... des va-nu-pieds aujourd'hui, elles n'ont plus même de quoi payer leurs employés. Et les opérateurs privés trouvent que le livre n'est plus le support idéal de la promotion de leur action, soit de mécénat, soit de, je ne sais pas, de promotion de leur image. Du coup, il faut aux éditeurs réinventer leur métier et donc réapprendre à concevoir des livres et à les demander à des auteurs adéquats ou à lire des manuscrits et parmi cette masse de manuscrits qui nous parviennent, choisir celui qui sera à la fois rentable et qui apportera quelque chose à la connaissance du public. Mais tout ça serait possible si le public en question ne se rétrécissait pas comme peau de chagrin. Or, on ne peut pas le nier, et je crois qu'aucun de mes confrères ne pourrait le nier, le public des livres d'art a tendance à se réduire méthodiquement d'année en année. Alors cette réduction n'est pas le fait que de circonstances économiques. La crise a toujours bon dos, mais ce n'est pas vrai. Je pense qu'il y a une désaffection pour la culture classique qui est manifeste, à laquelle échappent les grandes manifestations, les grandes expositions parisiennes notamment, qui sont encore fréquentées et pour lesquelles, en souvenir desquelles, on acquiert bien souvent le catalogue. Mais en dehors de ça, vous sortez un essai sur l'histoire de l'art. Moi, je me rappelle avoir suscité des essais. Jérôme de Laplanche, Peindre la guerre, par exemple, c'était un très beau livre. Un livre donc de Jérôme de Laplanche et d'Axel Sanson. Ce livre était très bon, était passionnant, édifiant, sur la peinture de bataille. Mais depuis la nuit des temps, pas la peinture de bataille ridicule de la fin du 19e, pas la peinture de la revanche, mais vraiment la peinture de bataille. Ce livre n'a eu aucun succès, on en a vendu 300. On a lancé comme ça plusieurs ouvrages et à chaque fois, on s'est un peu heurté. Et c'est pas une question de prix, c'est une question de désaffection. Personne n'est plus capable vraiment de lire des essais d'histoire de l'art. Alors s'il y a peut-être 2 milliers de personnes qui le feront systématiquement, mais ce sont des conservateurs de musées, ce sont des journalistes, ce sont des historiens de l'art qui, d'une manière générale, n'achètent pas les livres, mais se les font envoyer ou se les font prêter. Ou voilà. Et donc, ce sont pas eux qui font vivre les éditeurs. Donc, il se passe en France, avec beaucoup de retard, ce qui s'est passé dans les pays anglo-saxons il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. L'édition d'art est en train de s'institutionnaliser. Et je pense que les opérateurs privés, Gourcuff, ou des gens comme ça, vont avoir tendance à régresser, voire à disparaître au profit d'intervenants privés, publics, pardon. Ça, c'est mon avis. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vendre ma maison d'édition avant qu'il ne soit trop tard.
Il n'existe plus.
Oui, bon, parce que j'ai réussi à la vendre. Donc, pour réussir à vendre une maison d'édition d'art, il fallait vraiment s'adresser à des gens qui n'y connaissaient rien, sans quoi ils n'auraient pas racheté. Donc, effectivement, n'y connaissant rien, ils se sont plantés au bout de 18 mois. Mais ça, c'est une autre histoire et c'est pas la mienne.
Vous dites que les livres sont difficiles à faire, mais vous en faites un actuellement avec quelqu'un qu'on a reçu ici, Alexandre Gadi,
oui.
Notamment. C'est que ce livre parle de...
Alors, c'est une grande monographie consacrée à l'Hôtel des Invalides, hein, qui est une coédition, sans quoi jamais je n'aurais pu, moi, de mon propre chef, lancer une opération aussi vaste. Hein. Ce sera un très grand livre dans la droite ligne de ceux qu'on avait publiés sur l'Hôtel de la Marine ou sur l'Hôtel de Brienne, donc des très gros formats, très soignés dans leur facture. Et Alexandre Gadi en est le directeur. Et donc, ce sera une très grande monographie architecturale qui doit sortir pour la Toussaint.
Très bien. Venons-en maintenant au brasier, donc, qui est le récit. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une véritable histoire, qui est un parcours dans Paris, qui va nous mener en fait de la place de la Concorde jusqu'au Louvre, en passant par la rue Saint-Honoré, par des lieux d'ailleurs qui parfois ont changé de nom. Vous allez suivre c'est la seule fantaisie que vous êtes permise, vous l'expliquez à la fin, vous allez suivre ce que vous appelez le rouquin, qui est en fait une espèce de représentation d'un des fédérés, d'un des combattants de la Commune. Alors ma première question, on en a déjà parlé un petit peu, est-ce que la Commune n'est pas un sujet tabou? C'est-à-dire qu'on a l'impression, dès qu'on parle de la Commune, c'est presque sacralisé. Or, moi j'avais le sentiment, depuis longtemps, que la Commune avait quand même fait beaucoup de mal à Paris, ce qui n'excuse en rien les crimes de Versailles, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre. Donc, est-ce que c'est difficile de faire un livre sur la Commune? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous attendez à avoir éventuellement à vous en justifier? Parce que vous êtes assez sévère pour la Commune, comme d'ailleurs, je pense, à mon avis, l'histoire bien cite.
En fait, je ne suis pas particulièrement sévère avec la Commune. Je m'attaque à un sujet particulier de la Commune. La Commune, c'est un épisode historique... tumultueux, extrêmement dense, bruyant, qui a donné lieu à une littérature très bavarde, de part et d'autre, aussi bien de la part des détracteurs que de la part des promoteurs et des partisans. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce sont les héritiers de la Commune qui détiennent la mission, qui exercent le discours.
Vous écrivez, ce sont les faussaires qui, aujourd'hui, illuminent sa mémoire.
Voilà. C'est-à-dire que le problème, c'est que la Commune, aujourd'hui, la mémoire de la Commune est livrée à ses héritiers. Ces héritiers qui ne sont pas toujours des héritiers légitimes. Et donc, on entend à peu près à l'unisson ces héritiers... qui sont des hommes politiques, qui parfois sont des journalistes, ou d'autres fois sont tout simplement des béats confis dans un souvenir déformé, entretiennent la mémoire de cet épisode de liberté, cet épisode libertaire conçu comme une espèce de lucarne de liberté totale, d'égalité sociale dans l'histoire du pays, qui ne serait qu'une lente succession de soumission et d'esclavage. Bon. La Commune, c'est... d'abord une histoire extrêmement complexe qui mêle des aventuriers, certes, mais aussi des hommes extrêmement purs, animés de sentiments très nobles. C'est le cas de Delescluze, par exemple. La Commune se trouve confrontée à une assemblée réactionnaire complètement aveugle, vulgaire dans sa violence, alors qu'elle n'est peuplée que d'aristocrates et de notables de province qui prétendent sauver la France éternelle et les grandes valeurs de la patrie. En fait, ils se comportent comme des harangères. Ils braillent, tapent sur les pupitres, réclament la mort de tel ou tel insurgé. Et donc, comme le disait Clémenceau, on est coincé entre deux bandes de fous.
Oui, c'est ce que j'avais noté.
Voilà.
Les mains sur le même plan.
Exactement. Et bon, ça m'a semblé assez sage comme position, et donc j'ai adopté la position de Clémenceau, qui n'est pas a priori un homme extrêmement de droite, en tous les cas à l'époque. Mais moi, je m'attache à un aspect de la Commune, à un épisode de la Commune. Je m'attache à l'incendie du Louvre propagé depuis les Tuileries. Et c'est cet incident qui retient mon attention. Et plus que cet incident, ce qui retient mon attention, ce sont les deux personnages que l'histoire a complètement occultés, que sont d'une part Barbedjoui, le conservateur. Voilà.
Donc vous dites bien à la fin que la rue Barbedjoui à Paris, c'est son père et c'était pas lui.
Voilà.
Finalement, c'est un héros qui n'a pas été honoré.
Qui n'a pas de postérité. Et de la même manière, Sigeuillet, marquis de Sigeuillet, qui est un officier de l'armée de Versailles, mais qui commet cet acte superbe de faire poser en faisceau à ces hommes leurs fusils, leur faire cesser le combat, en fait. Les faire cesser le combat pour aller éteindre l'incendie du Louvre. Ce qui, en pleine fusillade, dans une espèce d'escalade complètement incroyable de la violence, essentiellement perpétrée par les Versaillais, je le répète, parce que c'est la vérité et qu'il n'est pas question de la contester, est un geste donc magnifique, ce geste de Sigeuillet. Donc moi, c'est ça que je veux...
Il avait l'ordre de laisser le Louvre.
Il avait l'ordre de marcher à l'ennemi. Il avait l'ordre de marcher vers l'Est le plus vite possible, comme tous les soldats versaillais, et de massacrer tout ce qui se trouvait à sa portée. Lui dit non, c'est pas possible, le Louvre va brûler. Les gars, on arrête tout, on pose les fusils, on prend les marteaux et on va défoncer la toiture pour ça.
Voilà. Alors, on va revenir au Louvre, mais finalement, vous avez un ordre que je vais essayer de suivre. Ça va pas être facile dans cette émission. Si quand même au départ vous expliquez que pas plus que les massacres des Versaillais contre les fédérés n'ont été provoqués par les incendies n'ont été provoqués pour répondre aux massacres, ce qui d'ailleurs serait absurde parce qu'on répond pas à des incendies. Et en plus vous dites qu'ils n'ont pas eu, et là vous parlez d'Haussmann et des grandes travées d'Haussmann. On a dit que les incendies étaient faits pour retarder, vous dites qu'ils n'ont rien retardé du tout et qu'ils ont été planifié avant le début des massacres.
Oui, alors il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, l'histoire retient que, horrifiés par le traitement que leur réservaient les soldats versaillais, les défenseurs de la Commune ont appliqué une espèce de politique de la terre brûlée en incendiant tout dans leur reflux. En vérité, l'incendie était programmé dès lors que l'issue fatale de l'aventure était avérée. Et les communards savaient la Commune condamnée, enfin en tout cas le conseil de la Commune savait la Commune condamnée avant même que les Versaillais n'entrent dans Paris. Et à partir de la mi-mai, c'est-à-dire une semaine grosso modo avant l'invasion de Paris par les troupes versaillaises, des mesures sont prises pour pouvoir incendier des monuments, non pas en fonction de leur situation stratégique, si vous voulez, mais en fonction de leur valeur symbolique. Ainsi, l'hôtel de la Marine, la cour Saint-Florentin de l'hôtel de la Marine est bondée d'explosifs, de matières inflammables dès le 16 mai. Il en est de même de la cour des Tuileries, pour des raisons peut-être plus ambiguës, il est vrai, que la cour des Tuileries abritait un parc d'artillerie et qu'il est normal d'y acheminer des matières explosives, mais enfin pas des matières incendiaires comme de la poix par exemple ou des huiles lourdes on les y entrepose. Et donc l'incendie était planifié. D'autre part, à l'opposé, si vous voulez, les défenseurs du gouvernement de Thiers, qui aujourd'hui d'ailleurs ne s'expriment plus jamais, il n'y a pas de défenseurs, on ne prend pas la défense du gouvernement de Thiers, personne ne légitime, si vous voulez, la conquête de Paris par les troupes versaillaises, mais enfin, à l'époque, on légitimait les massacres en l'interprétant comme une réponse spontanée à l'allumage des grands incendies, à la mise à feu des grands monuments. Ce qui est absolument faux, parce que dès le soir du deuxième jour, on fusille aveuglément les défenseurs de la Commune.
Vous disiez des fous contre les fous, parce que la Commune aussi, d'ailleurs, vous en décrivez un, il y a eu des massacres également. Enfin, on a tué des gens parce qu'on pensait qu'ils étaient pas pour la Commune.
Oui, oui. Enfin, je veux pas rentrer dans... Non, mais on va être très clair. Il n'est pas question de rentrer là-dedans. La Commune est un épisode qui a fait entre 15 et 20 000 morts, dont moins d'un millier de soldats versaillais, que sur les 15, 16 ou 17 000 communards effectivement tués, parce que, évidemment, les héritiers de la Commune vous disent qu'il y a eu 30, 40, 50 000 morts. Enfin, c'est du délire total. Hein. Mais sur les 15, 16, 17, ce qui est colossal en une semaine, il y a peut-être 3 000 hommes qui sont morts au combat. Les autres ont été collés contre un mur, désarmés, collés contre un mur et exécutés sans sans jugement. Donc, c'est sûr, les communards ont ordonné des exécutions. Ils ont exécuté des otages. Ils ont malmené des bourgeois restés à Paris. C'est vrai, ils se sont comportés comme des sagouins. Mais on ne peut pas opposer, comme on essaye de le faire par souci d'équité, le massacre massif, l'éradication par l'élimination pure et simple, corporelle, des opposants tels que la pratiquée Versailles, et puis la fusillade de quelques centaines d'otages, de prisonniers, etc. Je pense que ce qu'il faut retenir de l'épisode, et puis après on se reportera sur le Louvre, parce que je ne tiens pas du tout à faire l'histoire de la Commune ce soir à ce micro, mais ce qu'il faut retenir de la Commune, c'est que c'est un épisode particulièrement douloureux de l'histoire de France, parce que jamais, à l'époque moderne ou contemporaine presque, le peuple français n'est apparu aussi divisé, que c'est une nécrose ultime du corps social. À rien ne pouvait arriver de bon dans un pays où les gens se haïssaient à ce point. Et vous savez, c'est très important comme débat, parce que si aujourd'hui on célèbre avec autant de componction, autant de respect, dire une certaine gloriole, le premier conflit mondial, la guerre de 14, c'est parce que c'est peut-être la dernière fois, en tout cas la fois la plus, peut-être même la seule fois où l'ensemble du corps social français s'est montré soudé. Toutes les catégories de la population ont adhéré à cette idée que c'était la liberté qu'on défendait contre des structures obsolètes héritées des monarchies absolutistes, la guerre de 14. Mais si vous regardez bien, la libération, c'est une guerre civile larvée. C'est misérable. C'est misérable. Après avoir opprimé une population assez docile pendant 4 ans, cette population se retourne contre ses oppresseurs et massacre sans plus de discernement que les Versaillais et les communards, les supposés collaborateurs. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont été passées par les armes, dont certaines sur des dénonciations complètement crapuleuses. Donc, la Commune aussi, on en parle peu parce que on garde en mémoire que c'est un des épisodes les plus noirs de notre conscience collective. Jamais on ne s'est haï autant en France. Et c'est marrant parce que c'est vraiment des épisodes qu'on occulte, la libération de la même manière. La libération est vue comme, voilà, soudain l'embellie après 4 années de ciel gris. La libération, on peut très bien aussi la concevoir comme une guerre civile. Et quand j'entends les hommes politiques parler aujourd'hui de l'unité nationale du 11 janvier, je suis toujours très surpris parce que le 11 janvier a été une manifestation de solidarité, mais d'une certaine France, pas de toute la France. Et ça, il faudra attendre 20 ans pour qu'on puisse le dire. Parce que si vous dites ça maintenant, vous vous faites flinguer. Voilà. Bon, j'aime bien le bon laconique. C'était pas du tout ça vers quoi vous vouliez que j'aille, c'est ça?
Non, je rigole. Vous ça, c'est pas un problème du tout. Revenons donc au Louvre. Vous nous apprenez, moi je ne savais pas, que le Louvre a été en grande partie évacué, en fait, juste avant le siège de Paris, et qu'une bonne partie des œuvres, mais alors attention, pas toutes les œuvres, c'est-à-dire que celles qu'on considérait les plus importantes à l'époque, ont été évacuées du Louvre, donc en gros la Renaissance italienne, même les Noces de Cana ont été roulées et envoyées à Brest. D'ailleurs, où étaient-elles stockées toutes ces œuvres? Je ne sais pas, vous ne le dites pas.
À l'Arsenal.
À l'Arsenal de Brest.
Mmh. Dans des entrepôts.
Dans des entrepôts. Mais en revanche, il restait au Louvre, qui a failli brûler, on y reviendra, tout le 18e français, une grande partie du 19e français, enfin, Ingres, Delacroix, etc. Voilà, le Louvre était à la fois vide. Au départ, dans le début du livre, on a l'impression qu'il est presque vide, le Louvre. Et après, vous précisez bien, non, il n'est pas vide.
Non, 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 bien sûr, il n'est pas vide. Mais il s'est passé quand même une chose tout à fait extraordinaire, que raconte un universitaire dans sa thèse, notamment, c'est que dans les tout derniers jours de l'Empire, du Second Empire, le ministre de la Maison de l'Empereur, le maréchal Vaillant, et l'impératrice convoquent le surintendant des Beaux-Arts, si on peut dire, enfin qui n'est plus surintendant des Beaux-Arts, mais qui est conservateur du Louvre, qui s'appelle Quelconque de Nieuwerkerk. Et il est convoqué dans le cabinet de l'impératrice, et on lui annonce qu'il va devoir évacuer le plus possible de chefs-d'œuvre du Louvre pour les mettre en sécurité. Et à ce moment-là, on envisage de le mettre en sécurité à bord d'un bateau, du navire-école de la marine impériale qui s'appelle l'Hermione. L'Hermione se tenant prête à appareiller à tout instant, en direction des États-Unis. Et donc, Alors que les trains manquent, que l'acheminement des troupes et des vivres sur le front est le principal souci de l'administration impériale agonisante, Nieuwkerk va trouver le moyen de mobiliser des trains et des cheminots, va trouver le moyen de mobiliser des bras pour décadrer les toiles, les rouler, les mettre en caisse. Et en moins de 4 jours, ce sont près de 300 chefs-d'œuvre qui fichent le camp vers Brest, y compris les noces de Cana, la Joconde, le mariage mystique de Sainte-Catherine, par Corrège, enfin, des choses absolument, des trésors, le trésor de l'humanité, voilà, et mis en caisse en 3 jours, et en 4 trains nocturnes, est évacué vers Brest. Au lieu d'être placé dans les cales de l'Hermione, d'ailleurs, on les installe dans des entrepôts à peu près sécurisés. À peu près. Et ce qu'il y a de fou, c'est que ces œuvres, ils resteront jusqu'en juillet 71. Parce que, après la chute de l'Empire, Paris est investi par les Prussiens, la ville est assiégée pendant de longs mois, dans des conditions tragiques, hein, et ces conditions tragiques sont l'un des ferments de la Commune, du reste. Et Paris étant finalement acculé à la capitulation, Paris ne capitule pas, mais enfin, la France capitulant face à l'Allemand, Paris est ouverte aux Allemands, les Prussiens défilent dans Paris, et puis tout de suite après s'enclenche l'épisode communard, donc on ne rapatrie pas ces œuvres qui vont passer pratiquement un an, c'est-à-dire d'août à juillet, d'août 70 à juillet 71, vont passer toute une année dans les entrepôts de l'arsenal de Brest qui ne sont pas du tout faits pour les accueillir. Mais l'opération ultra secrète est menée de main de maître, dans des conditions que vous imaginez, quoi, des conditions extravagantes. Des ouvriers tenus au secret, des calèches qui complètement aveugles, qui abordent le musée en pleine nuit pour aller charger les bateaux, charger les tableaux dans les trains qui partent vers l'ouest. Enfin, tout ça est complètement romanesque, complètement extravagant, et l'opération est menée comme si elle avait été prévue de longue date. Et je crois que c'est la première opération de sauvegarde des trésors nationaux d'une nation en danger, conçue de la sorte, c'est-à-dire de façon aussi moderne. Donc, le Louvre est débarrassé, enfin, privé de plusieurs centaines d'œuvres, parmi lesquelles les chefs-d'œuvre italiens, les chefs-d'œuvre espagnols, quelques flamands, quelques nordiques, mais pas tous, et le classicisme français. Hein, Poussin, Le Sueur, tout ça, tous ces tableaux-là qui sont très prisés à l'époque, hein, sont évacués. En revanche, le 18e français reste en place, une grande partie du cabinet des Flamands reste en place, etc., etc. Il y a énormément d'œuvres qui sont...
Et notamment la Grande Odalisque, le
Alors, Cédule, les tableaux d'Ingres, de Géricault, sont là, les grandes machines de David également, donc des chefs-d'œuvre qui aujourd'hui sont universellement ancré dans les mémoires du peuple, de l'humanité tout entière. Tout ça va être exposé à l'incendie. Voilà.
Mais que reste-t-il donc au Louvre ? Alors, à part les peintures dont vous nous parlez, est-ce qu'il reste les sculptures, les dessins, les d'art
Oui, alors tout. Alors, il reste. Les dessins sont enfermés. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de choses ne sont plus consultables et beaucoup de choses sont enfermées dans des locaux qu'on croit en sécurité. On descend beaucoup de choses dans les caves, par exemple. Voilà, dans les caves du Louvre. On a évacué très peu d'objets vers les arsenaux. On a évacué des collections d'armes précieuses, quelques collections appartenant aux souverains, les décorations. Donc les décorations des souverains ne sont pas de simples breloques que l'on sort les jours de deuil national. Ce sont des véritables bijoux, des trésors d'orfèvrerie incrustés de pierres précieuses, bon, etc., etc. Donc tout ça est évacué, mis en sécurité, croit-on. Et beaucoup d'objets d'art, notamment les objets d'art de la Renaissance et du Moyen-Âge, qui sont à la garde d'Henri Barbet-Jouy, eux sont cachés. Alors cachés parfois dans des cachettes pratiquées à même les murs du palais. Hein. C'est assez drôle. Barbet raconte comment il cache dans des gaines.
Tout ça aurait
volé
si jamais le palais volait. Tout ça
disparaissait. Ah bah oui, tout ça disparaissait. Il y a quelques sculptures aussi qui sont évacuées. Par exemple, la Vénus de Milo est évacuée vers la nouvelle préfecture sur l'île de la Cité, dans les sous-sols de la préfecture. En fait, on évacue beaucoup de choses en sous-sol parce qu'on craint le bombardement. On craint le bombardement des Prussiens pendant le siège.
Et Versailles, on bombardait Paris.
C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'on craint d'abord, dans un premier temps, le bombardement des Prussiens, et on a raison de le craindre, hein, parce que les Prussiens n'ont pas se gêner pour bombarder Paris. Et on craint, après, sous la Commune, on craint le bombardement des Versaillais. Et donc, c'est pourquoi on met tout dans les sous-sols. On met tout dans les sous-sols aussi parce que on présume que l'incendie épargnera les sous-sols, ce qui est, en théorie, vrai. Hein. Et donc, voilà.
Alors, si on revient maintenant les incendies, on va revenir aux incendies. Ça commence évidemment, l'incendie, le palais qu'on brûle, on veut brûler, et là où on peut parler de Bergeret, la poule d'eau qui se scinde des lauriers de Néron. Vous nous direz peut-être un mot de ce personnage pas très reluisant. Donc, on incendie au milieu, dans le pavillon de Marsan et dans le pavillon de Port, on incendie les Tuileries. Donc, forcément, les Tuileries sont reliées au Louvre, donc ça va remonter. Ça, je ne savais pas non plus que ça avait l'incendie était remonté aussi loin au nord et au sud. Vous nous parlerez également de l'incendie de la bibliothèque impériale, que tout le monde a oublié, je pense,
vous rappeler,
où là tout a brûlé. En revanche, grâce à quelqu'un qu'il faudrait aussi célébrer, son nom m'échappe, Gerspach. Qui sauve la direction des Beaux-Arts, où il y a également beaucoup d'œuvres. Alors, c'est vrai que c'est, la direction des Beaux-Arts se trouve en fait entre l'incendie de la bibliothèque impériale et l'incendie de l'aile de Marsan. Moi, j'ai plusieurs questions. Alors, la plusieurs questions, c'est aux Tuileries, qu'est-ce qui restait exactement? On sait que tous les plafonds, tous les décors brûlés. Je crois qu'il y avait encore, la plupart, on voit encore beaucoup d'œuvres des Tuileries. Ça a été évacué, ça aussi, je crois. Et en revanche, du côté du pavillon de Flore, il y a des œuvres qui restent, des objets d'art. C'est, je crois, me rappeler dans le livre. Première chose. Deuxième chose, comment s'est arrêté l'incendie? Parce que finalement, il n'y a personne pour arrêter l'incendie au nord. Et pourquoi vous dites à un moment donné que, finalement, l'incendie de la bibliothèque impériale ne menaçait pas le Louvre? J'ai pas compris pourquoi.
C'est pas moi qui le dis, c'est Barbet, hein, d'ailleurs.
Oui, pas plus compris pourquoi.
Non, mais alors, d'abord, la première chose, c'est qu'effectivement, s'attaquer à un tel sujet était l'occasion de donner un état des lieux, un peu, des Tuileries, au printemps 1871. Évidemment, les détracteurs de la Commune se sont plus à décrire un palais pillé par le peuple, saccagé, etc., etc. Bon, c'est oublié que le palais des Tuileries est quasiment vide au printemps 1871 pour plusieurs raisons. D'une part, des raisons presque mécaniques. Le couple impérial quittait les Tuileries au printemps, généralement, pour aller s'installer à Saint-Cloud, qui était son palais d'été. Et quand le couple impérial quittait les Tuileries, on en profitait pour porter toutes les horloges qui toquaient mal chez l'horloger, pour porter l'argenterie à réargenter ou les cuivres à rétamer. On portait le mobilier pour lui l'habiller de nouvelles tentures, etc., etc., etc. Donc il y avait beaucoup de matériel déjà qui quittait mécaniquement, tout à fait naturellement, le palais que désertait pour la saison le couple impérial. Puis d'autre part, quand Eugénie le Nevout a été contrainte de revenir à Paris à l'annonce des premiers désastres militaires que subissait Napoléon III sur le front, Eugénie installe une ambulance, c'est-à-dire un hôpital de campagne dans ses appartements aux Tuileries, hein, qui occupe le premier étage de l'aile sud, si vous voulez, des Tuileries, hein, celles qui sont attenantes au pavillon de Flore. Donc déjà, une partie du mobilier des appartements de l'impératrice est évacuée. Ainsi, si vous voulez, le palais des Tuileries se vide progressivement. Quand la Commune prend le pouvoir, ce qui reste de précieux, elle le met sous scellé ou elle le destine parfois à la fonte, puisque la Commune, en dépit d'une relative complaisance de la Banque de France, mais qui est encerclée dans Paris insurgée, donc la Banque de France n'a pas trop le choix, même si elle dispose d'un bataillon de gardes nationaux qui lui reste fidèle, les rapports entre le délégué aux finances Jourde, le délégué communard, et le régent de la Banque de France sont plutôt des rapports de compréhension mutuelle, c'est-à-dire que la Commune ne manque pas trop d'argent. Mais, cela dit, se préparant à une pénurie, la Commune destine un certain nombre d'objets d'art à la fonte. C'est le cas des décorations de Napoléon III, c'est le cas de l'argenterie impériale, c'est le cas aussi de la statue de la paix par Chaudet, qui est une sculpture monumentale de Chaudet, qui a été fondue en 1811 et qui célèbre le traité d'Amiens, enfin la paix d'Amiens. Et cette statue a failli partir dans les fourneaux de l'hôtel des Monnaies et a été momentanément déroutée pour son analyse artistique. Ça lui a sauvé la vie. C'est bien le seul objet qui ait été sauvé pour sa valeur artistique. Donc en fait, les Tuileries sont assez vides, elles servent à la fois d'hôpital et de lieu de concert. Il y a des grands concerts populaires qui sont donnés tout au long de la commune, en général au profit des victimes de la commune ou des veuves et des orphelins des victimes de la commune. Et donc le mobilier des Tuileries est dispersé pour l'essentiel. Restent les décors peints, les stucs, tous les décors néoclassiques de Percier et Fontaine, notamment le salon des maréchaux. Et tout ça va brûler parce que la mise à feu du palais des Tuileries est extrêmement méthodique. Je la décris telle que l'ont rapporté des témoins, et pas seulement Maxime Ducamp, qui est évidemment, comment dirais-je, dont les propos sont hypothéqués par sa verve anticommunarde, hein, qui le condamne aux yeux des observateurs contemporains. Mais effectivement, c'est une mise à feu extrêmement méthodique, donc les Tuileries vont flamber en très très peu de temps, vont s'embraser, un embrasement spectaculaire que les gens regarderont comme un spectacle à la faveur d'une suspension d'armes. On regarde les Tuileries brûler. Mais ce qu'on ne sait plus aujourd'hui, c'est que par le pavillon de Flore au sud et le pavillon de Marsan au nord, l'incendie, comme vous le disiez, va se répandre dans les ailes, hein, les bras qui relient les Tuileries au Louvre. Alors, au nord, c'est ce qu'on appelle l'aile de la régie. En fait, ce sont tous les appartements des dignitaires de la maison de l'empereur, enfin des ex-dignitaires de la maison de l'empereur, puisque ces appartements sont quasiment inoccupés. Alors, des officiers d'état-major comme le général de Courson, du grand chambellan comme le duc de Bassano, les appartements du maréchal Vaillant, ministre de la maison de l'empereur, etc. Et ça va jusqu'au guichet de Rohan. C'est exactement le musée des arts décoratifs qui, lui, prend place dans cette aile sinistrée plus tard, hein, que le Fuel reconstruira. Hein. Parce que Le Fuel, qui a été donc l'architecte du Louvre de Napoléon III, continue à œuvrer sous la Troisième République. L'aile sud, c'est-à-dire l'aile de Flore, hein, on va l'appeler l'aile de Flore, c'est beaucoup plus simple, elle est en pleine reconstruction. En fait,
c'est la Grande Galerie, en fait, en gros.
Oui, la Grande Galerie, enfin la Grande Galerie, la portion de la Grande Galerie qui va des guichets jusqu'au pavillon de Flore, c'est pour ça que je l'appelle l'aile de Flore, pour la distinguer de la Grande Galerie de peinture qu'elle n'est pas encore. Oui. Donc, la galerie de Flore, elle, vient d'être reconstruite. Elle est doublée d'un pavillon, le pavillon des sessions, qui doit accueillir les grandes séances, les grandes sessions parlementaires, notamment lors du discours de l'empereur, etc. Tout ça est inachevé. Alors, c'est un double intérêt. C'est inachevé, donc il n'y a rien à brûler. Mais parce que c'est inachevé, c'est donc vide. Et donc, le feu y est happé comme par un effet de cheminée horizontale. Et c'est exactement ce qui va se passer. En fait, le feu va se répandre depuis le pavillon de Flore sur tous les combles de l'aile de Flore, jusque quasiment au guichet.
Il a épargné quand même le plafond de Cabanel qui existait déjà.
Ah non, le plafond de Cabanel, il n'est pas posé. Bon, c'est une question de spécialiste. Je m'attendais bien à ce genre de colle. Alors non, je ne serais pas collé sur le sujet. En fait, le Cabanel prévoyait une grande peinture qui devait orner le plafond de l'escalier des souverains, hein, puisque dans l'aile de Flore devait être installé un appartement d'apparat destiné aux souverains en visite à Paris. Et de ce programme ne reste que l'amorce de l'escalier des souverains, hein, avec des grands bas-reliefs, un décor assez somptueux. Et au plafond devait prendre place une grande toile marouflée de Cabanel. Et cette toile, en fait, n'a pas été posée, elle n'était pas posée quand l'incendie a eu lieu. Cabanel était, à la chute de l'Empire, en train d'achever cette commande dans l'un des pavillons de la bibliothèque impériale. Et en plus de ça, on n'avait pas interrompu la commande parce qu'il s'agissait du triomphe de Flore, et donc c'était politiquement tout à fait interchangeable. Et donc Cabanel travaillait à l'achèvement de ce grand tableau, de cette grande toile, mais qui n'était pas encore installé dans son escalier. Voilà.
Donc le feu se propage et il va être. C'est là que Barbet Jouy et Sigoyer vont couper le toit, en fait.
Alors. Bon, ça, c'est une première partie de l'incendie. L'incendie des Tuileries se répand. Oui. Alors, l'aile de la Régie, c'est-à-dire l'aile de la rue de Rivoli, flambe comme paille, parce que ça a été construit par Percier et Fontaine. Il y a tout un tas de décors, de tentures, etc., qui s'embrasent vraiment comme un feu de paille. L'aile de Flore, c'est différent. Le feu se répand par les combles. Mais il se répand vraiment à la vitesse d'un feu de brousse, parce qu'il est happé par le vide. Et... Barbedjoui, qui a pris le pouvoir dans le musée, à la faveur du grand tumulte de cette nuit d'incendie et de combat, Sigeuillé neutralise les commissaires de la commune qui sont délégués là pour diriger le musée, parmi lesquels d'ailleurs Jules Dalou, le sculpteur Dalou, qui n'a pas une attitude très très brillante dans l'affaire. Ouais. Et donc Sigeuillé s'empare du pouvoir d'abord. Ça, c'est assez extraordinaire. Il y a eu comme une prise de pouvoir au Louvre. Alors qu'il était limogé, il était sous le coup d'un mandat d'arrestation. Ouais. Enfin, c'est assez extraordinaire. Ce qui se passe est assez extraordinaire. Il fait preuve d'une fermeté d'âme, qui est tout à fait exceptionnelle, alors que c'est un homme que rien ne prédispose à ce genre de position péremptoire, comme ça. C'est un amateur d'art, c'est un collectionneur de porcelaine de Chine. Enfin, voilà. Bon. C'est un homme vieillissant, il a la soixantaine, c'est un bonapartiste désolé de ce qui est arrivé à l'Empire, désolé du départ de Nieuwerkerk, qui est un de ses très grands amis, et son protecteur, qui plus est. Et donc, Barbedjoui s'empare du pouvoir dans la nuit, il constate l'étendue du sinistre, considère l'aile de la Régie comme perdue, et se moque après tout de ce qui va brûler avec elle. Ce qui lui importe, lui, c'est de sauver le musée. Et quand, à 3-4 heures du matin, les communards, le 24 mai, à 3-4 heures du matin, une bande de communards met le feu à la bibliothèque impériale, alors elle qui flambe instantanément...
Avec des richesses
on en parlera tout à l'heure, mais enfin, c'est complètement dingue. Et surtout, le truc, l'incendie, c'est vraiment une torche, quoi. C'est-à-dire, en quelques minutes, le pavillon de Richelieu brandit des flammes de 10 mètres de haut. Enfin, voilà, bon. Barbet est tout de suite interpellé par ce nouveau foyer et se rend compte en fait que le pavillon de Beauvais dans lequel il y a l'administration du musée a une espèce de pignon aveugle ou quasiment aveugle qui va servir de pare-feu. D'accord. Et donc, assez intelligemment, il se dit que le danger en fait vient de l'aile de Flore. Et très vite, il va reporter tous ses efforts vers l'aile de Flore. Mais... avant qu'il ne puisse porter ses efforts par là, il doit surmonter un certain nombre de péripéties, comme la réquisition de la moitié de ses gardiens qui sont pris en main par un officier de la commune qui les oblige à construire une barricade en travers de la colonnade du Louvre, etc. Donc il dispose de très peu d'hommes. Il a comme principal adjoint Héron de Villefosse, qui est un jeune archéologue de 26 ans qui va lui être très utile à Barbet, parce que Héron, de sa jeunesse, va pouvoir parcourir de long en large les galeries, alerter, revenir, rendre compte, repartir à quête d'informations, etc., etc. Et Héron de Villefosse fait vraiment, fait figure de marathonien, de missi de menissi aux longues jambes, qui arpente le musée au pas de course pendant toute une nuit pour vérifier que le feu ne se répand pas. Et c'est alors que Barbet s'interroge sur la manière d'éteindre l'incendie que surgit au petit matin du 24, alors que tout flambe, y compris la rive gauche, y compris le quartier Saint-Honoré, les maisons de la rue Royale, enfin, Paris est un brasier immense. Il est 6 heures du matin le 24, quand Bernardy de Sigeuillé, le chef de bataillon Bernardy de Sigeuillé, qui commande le 26e bataillon de chasseurs à pied, prend pied sur la terrasse des Tuileries. Et Sigeuillé attend les ordres, il doit progresser vers l'est, il doit se rendre sur la place du Châtelet par les quais, balayer les quais, les nettoyer, comme disent les militaires, ce qui veut tout dire. Et en fait, il se rend compte que l'incendie des Tuileries se répand à travers l'aile de Flore. Et en fait, au bout de quelques heures, vers 8h30, donc 2h30 après qu'il a pris pied sur la terrasse des Tuileries, Barbet pénètre dans la cour des Tuileries, enfin dans la cour du Louvre, par la porte des Lions. Et donc, il a sous son commandement à peu près 150 hommes. Il leur fait immédiatement disposer les fusils en faisceau. Il fait fouiller l'agence de l'architecte, près du pavillon Molien, pour trouver les plans de la nouvelle galerie, pour découvrir où sont les points d'eau. Et alors, heureusement pour lui et pour ses hommes, et pour le Louvre surtout, il se trouve que la salle des sessions, le nouveau pavillon des sessions, est juchée au-dessus d'une écurie, ce qu'on appelait la cour de l'Anka. En fait, on appelait ça la cour de l'Anka parce que c'était là que se tenait une écurie sur le pied de guerre perpétuelle, capable de transporter n'importe où l'empereur ou ses ministres à tout moment, en pleine nuit, en plein jour, etc. Donc il y avait là des attelages de toutes sortes et beaucoup de chevaux. Et parce qu'il y avait beaucoup de chevaux, il y avait beaucoup d'eau. Il y avait des prises d'eau partout. Alors les chevaux, évidemment, on les avait mangés pendant le siège de Paris, et les voitures impériales, on les avait balancées, on en avait fait des barricades ou tout ce que vous voulez, mais enfin, la cour de l'Anka était vide, sauf que les prises d'eau, elles, étaient là et en état de marche, parce que la cour de l'Anka fonctionnait depuis 1868 à peu près. Donc Sigoyer découvre ces prises d'eau et donc va s'organiser immédiatement sous ses ordres une noria, avec l'espoir d'inonder les combles, espoir très vite déçu, parce qu'il fait une telle chaleur à l'abord du pavillon des sessions quand on vient des guichets. Hein. Donc c'est vous dire la progression du feu. Le feu est arrivé quasiment au guichet. Hein. Et par les guichets, il ordonne à la première compagnie d'inonder les combles, et ils y parviennent très difficilement parce qu'il fait une chaleur intolérable. Et c'est là que Sigoyer a une idée donc de génie très simple, hein, une idée de soldat d'ailleurs. Il entend briser les combles juste au-devant des guichets. Il entend briser les combles pour que cet effet de cheminée horizontale se verticalise et que le feu se répande dans les nues et non plus sous les combles. Et donc ce sont ces soldats qui vont grimper sur les combles, les toits, et vont défaire les parements de zinc, vont faire sauter les ardoises, vont faire sauter les veliges, tout ça à coups de pied de biche, de hachereau, de marteau, tout ça en se brûlant les mains. Les fermes de charpente métallique qu'avait installé le Fuel sur toute cette galerie et sur au-dessus de toute la salle des sessions seront tordues par la chaleur. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'il faut comme chaleur pour tordre des IPN métalliques. C'est incroyable l'intensité du brasier. Bon, et bien cette chaleur sèche, hein, sans flamme, mais tout en fumée du reste, les soldats de Sigoyer vont l'affronter assez calmement sous les ordres déterminés de cet homme que rien ne prédispose à sauver le sel de la civilisation. Hein. Sigoyer, c'est un soldat, c'est un combattant, c'est un brave homme, enfin c'est un homme qui... c'est un baroudeur. Hein. Et c'est assez extraordinaire parce que ce baroudeur va, pendant 3 heures dans sa vie, être le plus grand sauveur des trésors de l'humanité. Quoi.
Et que voulais-je dire par rapport à ça
ne vous endormez pas, Didier, ne vous endormez pas.
Il y a une chose qui m'a frappé, finalement, et ça se conclura peut-être là-dessus, puisque je crois qu'on arrive au terme de notre émission. Finalement, la commune a incendié les Tuileries, c'était un symbole, mais ils n'ont pas volontairement, en tout cas, incendié le Louvre. Ils n'ont pas brûlé le Louvre.
Non, non, jamais aucun ordre n'a été donné d'incendier le Louvre. La commune, même aux abois, ne pouvait pas se rendre coupable d'un tel forfait. C'est Bergeret, donc le général, entre guillemets, Bergeret, qui investit les Tuileries, voilà, que Maxime Ducamp, à qui Maxime Ducamp trouve qu'il a une physionomie de poule d'eau. D'accord. Moi, je trouve qu'il a une physionomie de pyromane, mais enfin, bon, bref. Et Bergeret arrive aux Tuileries le 22 au matin parce qu'il a quitté, il a abandonné son poste avec ses hommes sans que rien ne l'ait obligé à le faire. C'est un véritable couard, c'est un personnage sans aucune envergure. C'est un couillon en plus, il a mené une sortie armée des communards contre Versailles au début du mois d'avril qui s'est soldée par une pantalonnade sanglante. Enfin ce type est vraiment un pauvre gars que les tumultes, la fournaise ont porté au premier plan, alors que normalement, il aurait dû mourir, naître, vivre dans l'anonymat le plus total. Et Bergeret est celui qui fiche le feu aux Tuileries. Et bien sûr, comme beaucoup de chefs coupables de tels forfaits, il va échapper évidemment au châtiment que leur réservent les Versaillais. Et ce qui est assez bizarre, c'est que non seulement il va échapper à la répression de la commune, mais en plus de ça, il va y échapper grâce à Adolphe Thiers lui-même, qui va organiser son départ. Et depuis les États-Unis où il s'est réfugié, Bergeret écrira qu'il avait reçu l'ordre du comité de salut public de la commune de mettre le feu aux Tuileries et au Louvre. Mais ça n'est pas avéré. Ce sont des, comment dirais-je, ce sont des propos de repentant, parce qu'il explique qu'il n'a pas mis feu au Louvre exprès, alors qu'on ne lui avait donné l'ordre de le faire, et qu'il se pose ainsi en sauveur des trésors de l'humanité. Mais en fait, il n'en est rien.
En revanche, je disais que j'allais conclure, mais quand même, il y a une chose qui m'a aussi frappé, c'est que Notre-Dame devait brûler également.
Oui, oui, tout à fait.
Ça, c'était la commune. C'était le...
Là, c'est un incendie spontané. Je ne pense pas qu'il... D'ailleurs, il n'y a aucune trace. Enfin, ceux qui sont coupables de l'incendie de Notre-Dame disent qu'ils ont reçu les ordres du comité de salut public, mais enfin, on n'en a aucune preuve, sauf que ce sont bien des communards qui refluent. Hein, l'hôtel de ville est menacé de toutes parts. Hein, donc, le conseil de la commune et le comité de salut public sont en train de déserter l'hôtel de ville quand, un petit peu en amont, enfin plutôt en aval du fleuve, des communards éperdus rassemblent tous les bancs, toutes les chaises, les confessionnaux, toutes les étoles, les camailles du revestiaire, les livres de messe, etc., les pupitres. Tout ça est rassemblé à la croisée du transept. La croisée du transept est immédiatement mise à feu. Et en quelques minutes, si vous voulez, les flammes tutoient les voûtes de la cathédrale. Ce qu'il y a, c'est que il y a le docteur Brouardel, qui est un jeune médecin affecté à l'Hôtel Dieu, qui mobilise d'abord tous ses infirmiers. Pas mal de gens du quartier, spontanément, se dressent contre cet incendie. Et même, d'ailleurs, quelques malades en état de bouger. Et donc, très vite s'organise là une noria qui va éteindre l'incendie avant qu'il ne menace la structure même de la cathédrale. Mais enfin, oui, là il y a une centaine de fuyards communards qui fichent le feu à la cathédrale. Ouais.
Voilà, nous voilà arrivés au terme de l'émission. Je prendrai, en écoutant Nicolas Chaudin, qui est vraiment passionnant à écouter, son livre est tout aussi passionnant, donc je pense que vous vous précipiterez. Je vais faire un peu la...
Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien.
Sur la librairie, la tribune de l'art, pour l'acheter. Vous ferez 2 euros.
Non, mais surtout, vous êtes extrêmement ponctuel, parce qu'il sort aujourd'hui en librairie.
Voilà, il sort aujourd'hui en librairie. Donc non, c'est un livre vraiment passionnant, et on regarde l'histoire. Il n'est pas question, et vous avez raison de le souligner, il n'est pas question de réhabiliter Versailles, il est question simplement d'expliquer ce qui s'est passé.
Je m'attache à un épisode dont on parle peu, et je ressuscite la mémoire de deux personnages qui, pendant quelques heures dans leur existence, se sont comportés en véritables héros. Et cette vertu, cette dimension romanesque et quasiment dramatique, parce qu'il y a une unité de temps, une unité de lieu, etc., etc., m'a beaucoup tenté. Je ne suis pas là pour régler mes comptes ni avec Versailles ni avec la Commune. L'objectif du livre, c'est pas ça. L'objectif du livre, c'est de mettre en scène et de donner à voir un épisode complètement occulté de l'histoire de France qui a failli nous coûter les plus beaux chefs-d'œuvre de l'humanité.
Merci Nicolas Chaudin.
Merci à vous.